Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, Léorach et Amun, Tovim et Shanim, Néhémim. Nous poursuivons notre étude sur la Megillat Esther. Nous sommes au chapitre 8. Bayom Ahou, Natan Amelech Hajverosh Yeser Amalka et Betaman. Donc en ce jour, le jour même, c'est le 16 Nissan, alors le roi a donné toute la possession, toutes les propriétés, tout ce que possédait Aman, il a transmis à Mordechai, à Esther, et Esther l'a donné à Mordechai. Donc le 16 Nissan, jour de l'offrande du Homer, cette petite mesure de farine d'orge, elle symbolise la délivrance physique d'Israël et sa sortie de l'esclavage, physiquement, comme le dit le Maharal dans le Tiferet, Tiferet Israël. L'essentiel du miracle de Purim se déroule justement à Pessah. La perte de Haman, son élimination, tous ses biens deviennent possession du roi qui les cède à la reine. C'est un juste retour des choses. Le roi avait cédé à Haman les 10 cycles d'argent. Tout le pouvoir d'Haman est transmis à Mordechai. En effet, les méchants, les Réchaïm, amassent des fortunes afin que les Tzadikim en profitent. Il est ici souligné la particularité d'une nes de Purim, que ce n'est pas juste à Purim que le décret d'Aman a été annulé, mais parce qu'il y a ici deux facettes dans le miracle. C'est d'une part, les blés Israël n'ont pas été tués, il y avait un décret d'extermination qui a été annulé, mais non seulement ça, et ils se sont vengés de leurs ennemis et les ont détruits. C'est un double miracle. Et cette Nekuda-là, ce deuxième point, ressemble certainement au cantique que nous disons « El Nekamot Hashem, El Nekamot Ophia ». Le Dieu des vengeances, on veut que Hashem nous venge de tout ce qui s'est passé pendant l'exil. Toutes les souffrances, tous les morts, toute la perte de puissance d'Israël, toutes les souffrances qui nous ont empêchés de grandir et de faire. Prenons un exemple, un enfant qui est assassiné, une maman qui perd son enfant parce qu'il a été assassiné par un rachat. Donc une vie entière, un potentiel énorme a disparu. Et ça, qui va nous le rendre? Cet enfant-là aurait pu devenir un grand chacham, un grand tzaddik, il aurait pu écrire des livres, il aurait pu enseigner la Torah, il aurait pu devenir un grand scientifique, quelqu'un qui invente un médicament qui sauve le monde, qui peut sauver les gens. Tout ça a été perdu, tout ça. La vengeance, c'est justement la récupération de ce qui a été, de ce qu'on nous a arraché, qu'on nous a empêché. Et c'est la nekuda qu'il y a ici dans la fête de Purim. Et en cela, et par rapport à ce point précis, la fête de Purim a un goût de Géoula, de la venue du Mashiach. Parce que cette possibilité de se venger, ça veut dire de récupérer tous les potentiels et les énergies qui ont été perdues de par la faute des goïms qui nous ont oppressés, qui nous ont pourchassés, qui ont commis des crimes, etc. Tout ça ne peut être récupéré qu'à la fin des temps. Et en cela, c'est ça la Nekuda qu'il y a ici, que tout ce que Aman a amassé a été transmis à Mordechai. Et que dans le Nes de Purim, ce n'est pas uniquement, comme je l'ai dit, que les Bnei Israël ont été préservés, que le décret s'est annulé, c'est qu'ils ont pu détruire leurs ennemis. C'est ça la notion de vengeance. Ils ont récupéré les énergies. C'est, nous devons comprendre que quand le Aman et ses acolytes ont la possibilité de détruire Israël, ils ont le vent en poupe, ils sont à l'apogée de leur pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont amassé des énergies, des forces, de l'argent, de la puissance, ils ont amassé. Toute cette puissance, en fait, ce fait de pouvoir dominer, ça appartient à Israël. Et ça a été, et c'est cela, quand il est dit que les Israël ont tué leurs ennemis, ça veut dire qu'ils ont récupéré ces énergies-là. Et ils les ont ramenés dans le giron de la Kdusha. C'est pour cela qu'après, il est dit, il a eu dit, Maïta, Ora, Vesimcha, Vesasandika. Ça veut dire que, ils se sont, il y a eu un renouveau du culte, un renouveau de l'accomplissement des Torah et des Mitzvot. Un point, ceci est un point fondamental pour comprendre la véritable dimension de la fête de Pourim. Nous poursuivons. Nous dit le texte, cependant, il faut savoir qu'avec l'exécution d'Aman, tout est loin d'être terminé. Il faut à présent abroger les décrets. Il convient de ne pas se relâcher et d'amplifier encore nos efforts, car Hachem donne une entière victoire à ses enfants, en fin de compte. Esther se présente à nouveau devant le roi, le suppliant, l'implorant d'annuler les plans d'Aman. Nous avons déjà souligné le fait que lorsque les justes demande audience au roi et s'adresse aux puissants de ce monde, c'est en fait devant le roi tout-puissant à Kadosh Baruch Hu qu'ils se tiennent et lui adressent leur prière. Alors voyons ce que Esther demande. Esther demande audience au roi pour obtenir l'abrogation des décrets de Haman et des lettres de Haman le 17 Nissan. Alors le pasuk dit « Vatosef Esther vatidaber lifnei ha-melech » Puis Esther revient à la charge pour parler au roi, se jeta à ses pieds en pleurant, le suppliant d'annuler le funeste dessein d'Aman et le projet qu'il avait formé contre les Juifs de les détruire. Alors ça veut dire qu'à nouveau, Esther parle devant le roi, elle tombe devant ses pieds, elle pleure, elle le supplie. Il est cité ici cinq choses. Vatosef, vatedaber, vatipol, vatef, vatithanen. À quoi correspondent ces cinq choses? Alors il y a quatre dans la prière de Shachrit, il y a quatre niveaux dans la prière. Les quatre étapes de la prière, qui sont les korbanot, après les psukei des Zimra, après il y a les brachot de Kriyat Shema et après la Amida. Donc ici il y a les quatre éléments. Mais comment agir? Il faut agir avec la puissance. La prière, ce n'est pas juste des mots que l'on récite. Ces mots-là n'ont de sens et de valeur que si on leur insuffle la puissance, la joie, la ferveur et l'enthousiasme. Alors, c'est ce qui a marqué ici. Quatre étapes, ça correspond aux quatre étapes de la prière et la manière de la faire, de la formuler. Les cinq éléments qu'il convient d'y associer en plus à la prière, qui sont l'action, la parole, la pensée, la volonté et la joie. Sinon, la prière n'est pas une bonne prière. Elle renouvelle sa prière, elle rajoute. Elle se présente avec une énergie nouvelle pour implorer à Kadosh Baruch Hu. C'est l'esprit divin, comme il est dit, l'esprit divin qui l'enveloppe avec une intensité amplifiée. Comme dit le Shulchan Aruch, que lorsqu'on se lève pour faire la Amida, on doit se détacher totalement de toutes les pensées qui nous rattachent à ce monde. Et on peut atteindre l'extase et même un niveau prophétique. C'est de cela qu'il s'agit. Elle parle devant lui, devant Hachem. C'est la proclamation de l'unicité de Dieu, qui correspond à la lecture du schéma. Elle tombe. Marquez qu'elle tombe. Ce sont les quatre prosternations qui accompagnent la Amida. Elle supplie, comme disent nos maîtres, ne fais pas de ta prière une obligation, mais fais-la comme une supplique. Le'olam aliyase Adam, tfilato, keva, ela, tahanunim. Et là, devant le roi tout-puissant, elle tremble de crainte, d'effroi. Elle en perd la parole. C'est-à-dire que quand on se présente pour dire la Amida, on va dire, Hachem, c'est Fatah et Tiftar. Hachem, je n'ai plus la possibilité à un niveau auquel je suis devant toi, devant le Tout-Puissant. Alors on s'imagine qu'on est devant Akash Bokhu, le trône divin. On perd tous ses moyens, on n'a pas la possibilité. On est muet, on perd la possibilité de parler. C'est, on demande à Hachem, ouvre-moi la bouche, donne-moi cette force de prier. Donne-moi la possibilité de prier. C'est toi qui ouvres ma bouche, afin que ma langue, que je puisse dire tes louanges. C'est ça, Hachem, c'est Fatah et Tiftar, Ophi, Agit et Ilatecha. Alors à ce moment-là, le roi, il lui tend le sceptre d'or, et Esther se relève. Elle se relève et se tient debout devant le roi. Elle le dit mot. C'est là, entre le premier verset de la Amida, Hachem, c'est Fatah et Tiftar, et la première bracha, qu'elle se concentre, elle se dit en son cœur, je me tiens devant le Seigneur Tout-Puissant qui attend et écoute ma prière, qui exauce, non pas il exauce ma prière, il va l'accomplir, et il va m'octroyer ce que je demande, non pas parce que je le mérite, mais parce que lui, il est la source de bénédiction et la miséricorde et la bonté absolue. Après avoir marqué ce temps d'arrêt, qui lui permet de concentrer ses pensées, de canaliser toutes ses énergies, elle s'adresse alors au Seigneur Tout-Puissant de tout son être. Pour que la prière soit exaucée, il est nécessaire que le roi soit disposé à agréer les demandes, que sa volonté du moment soit favorable, que le demandeur trouve grâce aux yeux du roi, que la requête soit acceptable et puisse se réaliser, et enfin que le demandeur puisse être le conduit par lequel cette volonté se réalise. Si tous ces éléments se trouvent réunis, alors la requête sera inscrite dans le livre. Comme disent Rachamim, sache que tout ce que tu fais, tous tes actes, kol ma'asecha baser nirtamim, tout ce que tu fais est consigné dans le livre de la vie. Elle demande la révocation des premières lettres qu'a fait écrire Aman. Ce sont les décrets, les sentences scellées qui sont proclamées par les tribunaux célestes. Peut-on encore retenir leur application? Le juste ne peut supporter les sanctions, les calamités de toutes sortes, les drames qui frappent le simple du peuple. Les mérites des hommes de valeur sont apportés au bénéfice du peuple tout entier dans sa globalité. Le juste agit comme un bouclier. Son mérite est une muraille qui protège son peuple. C'est ce qu'on dit dans les suppliques. Les gens de valeur sont pour nous comme une muraille. Esther s'adresse au roi en ces termes. Si vraiment, Seigneur, je trouve grâce devant toi et que j'ai ne serait-ce qu'un tout petit mérite, que tu veuilles bien satisfaire mes désirs, alors reviens sur les décrets, préserve ton peuple, que rien de mauvais ne puisse l'atteindre. Alors le roi dit, voyons, voilà, je vous ai donné la maison, etc. Je l'ai pendu sur la potence pour avoir attenté à la vie des Juifs. Et vous, écrivez ce que bon vous semble. Au nom du roi et en faveur des Juifs, comme vous le jugez bon, et signé avec le sceau royal, car un ordre écrit au nom du roi et muni, scellé par le sceau royal, ne peut être rapporté. Ça veut dire qu'on ne peut pas annuler les lettres d'Aman. Il semble que la réponse du roi ne soit pas immédiate. En effet, il s'adresse ici à la reine et à Mordechai, qui n'était pas présent lors de cette audience, où il y a marqué que Esther seule est rentrée demander audience pour formuler cette nouvelle requête. Alors le roi exige la présence de Mordechai pour répondre à la reine de sorte que ses propos soient bien compris. Il lui dit, il est impossible d'abroger les premières lettres. Elles portent le sceau royal et leur rédaction porte le nom du souverain. Aman ayant usurpé ce droit et l'anneau royal, cependant il a été pendu pour avoir porté atteinte aux Juifs. Sa maison et ses biens sont à présent la possession de la reine. Ce qui montre clairement que la volonté du roi et la politique de l'Empire est de rechercher le bien des Juifs. Mais on ne peut pas abroger, malgré tout. Il est donc inutile de vouloir les abroger. Et de plus, cela n'est pas faisable selon les règles du royaume. Et de plus, il est dit plus haut, la teneur de l'écrit portée qu'un ordre fut promulgué dans chaque province est portée à la connaissance de tous les peuples de se tenir prêts pour ce jour. C'est-à-dire que dans les messages envoyés au peuple de l'Empire et aux 127 provinces, il n'est pas précisé qui doit être exécuté, qui sont les exécutants. Donc, il y a que Aman avait envoyé trois sortes de lettres, et il n'y avait, personne ne savait exactement ce qui allait se passer. Il fallait se tenir prêt pour ce moment-là, ce jour-là. Mais les seuls qui savaient, c'étaient les seigneurs des provinces. Alors, le roi propose alors la rédaction de deuxième lettre et l'envoi de coursiers qui va se faire le 23 Sivan, comme dit le verset. Vaïkar ou son frère Améler Baïtaï, Bahodesh Shelishi, donc le troisième mois, le mois de Sivan, le troisième mois, le 23 de ce mois. Alors ici, et on envoya les coursiers. Alors ici, a priori, il y a une question qui se pose. Puisque l'audience, c'est-à-dire entre le jour où Esther obtient du roi le droit d'envoyer de nouvelles lettres et de les écrire, et le jour de la rédaction de ces lettres et l'envoi des coursiers, il se passe pratiquement 66 jours. Pourquoi un tel délai? L'adage populaire dit bien qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Alors, la raison de ce délai est la suivante. On voulait envoyer les mêmes coursiers et les mêmes messagers que ceux qui ont envoyé les lettres précédemment. De sorte que les préfets, les gouverneurs et les seigneurs de chaque province soient certains que ces deuxièmes lettres avaient bien été écrites en présence du roi et qu'elles n'étaient pas contrefaites. En effet, sans le témoignage des messagers eux-mêmes, le doute aurait plané. Fallait-il suivre les directives des premières ou des secondes lettres? C'est vrai. Imaginons un empire immense. Il fallait plusieurs, des dizaines de jours pour atteindre l'extrémité du royaume. 127 provinces qui font l'ensemble du monde antique. Donc il y avait pas de moyens de communication. Donc un gouverneur reçoit une première lettre. Tiens-toi prêt pour exterminer les Juifs tel jour. Et après ça, il reçoit une deuxième lettre. C'est le contraire qui va se passer. Alors il dit, c'est quoi la vraie lettre? Que se passe-t-il là? Il reçoit un deuxième coursier. Il reçoit un deuxième messager, différent, avec une lettre contraire. Alors il dit, c'est quoi? Je dois faire la première ou la deuxième? Comment peut-il vérifier? Il faut un temps fou pour aller se renseigner. Comment peut-il faire? Donc c'est pour ça qu'on a attendu le retour des premiers coursiers pour les renvoyer immédiatement, de sorte qu'eux-mêmes pouvaient témoigner que les deuxièmes lettres étaient bien écrites devant en présence du roi, et que le roi, c'est lui qui a décrété ces lettres, de manière à certifier que les premières étaient des fausses. Nous avons déjà mentionné plus haut qu'Aman avait rédigé trois sortes de lettres, afin que la surprise soit totale. Il n'y avait que les seigneurs des provinces qui étaient au fait de tout ce qui se tramait. C'est uniquement à eux qu'Aman avait dévoilé l'ensemble du plan. Au gouverneur et au préfet, ils ne dévoilent qu'une partie des choses, de sorte que le peuple ne sache pas exactement de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Mordechai ne fait rédiger qu'une seule et unique missive qu'il adresse à tous. Il y a donc 70 jours entre la rédaction des premières et des deuxièmes lettres, celle de Haman et celle de Mordechai, qui correspondent autant, ces 70 jours, autant du repentir consacré aux 70 années de l'exil. L'histoire de la Megillah se conclut justement à la fin de l'exil de Babylone, qui a pris 70 ans. Le verset dit « Mon bien-aimé retire sa main de la lucarne. Je me lève pour ouvrir à mon bien-aimé. » C'est marqué dans le Cantique des Cantiques. Il s'agit d'Akadosh qui ouvre la porte devant Am Israël. L'exil est le temps de la face cachée. Esther Panim. La porte qui s'ouvre vers les horizons nouveaux, grâce au repentir, annonce le retour des enfants sur leur terre et la reconstruction du sanctuaire, ainsi que l'explique le Gaon de Vilna sur le Cantique des Cantiques. Les événements se déroulent 4 ans avant la fin de l'exil, à la fin des 70 ans de l'exil, qui ont été prophétisés par Jérémie, qui débute par la destruction du Temple de Jérusalem en 3338. Et là, nous sommes en 3404. La teneur de l'écrit portait qu'un édit fut promulgué dans chaque province et portait à la connaissance de tous les peuples. Ceci est l'essentiel du message du roi. Le roi n'est pas revenu sur le premier édit, mais donne le droit aux juifs de se défendre, comme il est dit, que tous ces étaient portés à la connaissance du peuple pour que les juifs se tiennent prêts pour ce jour à se venger de leurs ennemis. Donc le décret, nous devons savoir que la vente effectuée par Ahasvéroch, il a vendu les Bnei Israël à Aman, que le décret d'extermination n'ont toujours pas été révoqué jusqu'à nos jours. Le risque de l'application d'un tel décret est toujours d'actualité. Le droit acquis par Aman est encore effectif. C'est celui qui utilise ou qu'ont utilisé tous les ennemis de notre peuple au cours des temps pour lui causer du tort et essayer de l'exterminer. La seule solution qui nous est donnée pour contrecarrer ce danger et d'emprunter les mêmes remèdes qu'ont utilisés Mordechai et Esther. Aratim, Rochve Arechesh, Yatsum Evoalim. Donc les coursiers partent rapidement. Ils sont dans la précipitation. C'est alors que Mordechai est sorti du roi, chez le roi en costume royal, bleu azur et blanc, avec une grande couronne et d'or et un manteau de pourpre, etc. La ville de Suse était dans la jubilation et la joie. Vaïr, Shushan, Navo, Ta'ala, Vesameha. La Yehudim, Aïta, Ora, Vesimha, Vesason, Bikar. Ici, il y a un verset fondamental. Pour les Juifs, ce n'était que joie rayonnante, contentement, allégresse et marque d'honneur. Alors, nous expliquons ce paragraphe. La précipitation des coursiers est due au fait qu'ils partent avec une missive opposée à la précédente. Ils sont donc dans l'étonnement et l'interrogation eux-mêmes. On les renvoie immédiatement sans leur laisser le temps de comprendre le renversement de situation. Les justes, tzadikim, utilisent la gloire et les honneurs qu'on leur octroie uniquement pour les autres. Nous avons déjà précisé cela à plusieurs reprises. Comme le Hassid Lutzato le stipule de manière certaine et fortement dans son livre Messilat Yesharim au chapitre 19. Ils sont eux-mêmes indifférents à tout cela, ces honneurs-là. Les jouissances de ce monde ne leur sont pas agréables. Ils s'en éloignent et les méprisent. Mordechai sort du palais vêtu des plus beaux apparats, avec tous les honneurs, le faste, les éclats. Il est célèbre. Sa notoriété traverse l'empire. Cependant, il reste identique à lui-même. Comme dit le verset, la ville de Suse, sa population est dans la jubilation et la joie. Mais lui, il reste identique. Le costume royal, nous disent Chachamim, c'est le talit. Le bleu azur et le blanc sont les deux éléments du tzitzit. La couronne d'or qui est sur sa tête, c'est la coque des tfilines de la tête. Le manteau de lin sont les lanières de pourpre, les lanières des tfilines. Le pourpre correspond aux tfilines du bras, de sorte que toutes les parures qu'il porte ne sont que les mitzvot qu'il a accomplies. Chaque mitzvah que nous accomplissons est un point de broderie qui s'ajoute aux vêtements de gloire dont s'habille notre âme, ce que les nomètres ont appelé Istela des Rabbanan. La vraie joie, les vrais honneurs ne sont pas ceux de la Torah, ne sont que ceux de la Torah et les mitzvot. Alors là, nous devons faire une parenthèse au sujet de ce que qu'il y a ici un renouveau total et parfait du culte et de l'accomplissement d'études de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. Revenons au chapitre 3. Aman avait dit au roi que le peuple était endormi. Yeshno amehad. Le mot yeshno fait référence au sommeil et la profonde torpeur dans laquelle le peuple d'Israël s'était installé. Cela, évidemment, ne signifie pas que le peuple avait abandonné la pratique des mitzvot et qu'il ne s'adonnait plus à l'étude. Cette allusion au sommeil se rapporte aussi au fait que nos maîtres disent que la providence, Elohim Shelu Yashan, lui dit Aman, nous disent que la providence qui semble avoir laissé son peuple entre les mains de ses ennemis aussi s'est endormie. Ce que l'Arizal appelle la dormita. Il est à noter que cette génération est dirigée par les plus grands, de nombreux prophètes et les 120 maîtres qui composent la grande assemblée. Alors comment comprendre que le peuple se soit détourné de l'accomplissement des commandements divins? Et où étaient tous ces gens-là, les prophètes, les tzadikim, les chachamim? Pourquoi n'ont-ils pas repris le peuple, reproché au peuple? Donc il ne s'agit pas uniquement de ça, il y a une autre dimension ici. L'histoire de Purim ne doit pas être comprise comme un miracle extraordinaire qui s'est produit dans notre histoire uniquement comme ça. La Megillah nous dévoile que tous ces événements sont d'une dimension bien plus grande, dont l'impact va préparer au renouveau d'Israël et à son retour sur sa terre, à la reconstruction du Temple, au rétablissement de la souveraineté d'Israël et bien plus. Pour que cela se réalise pleinement, il est indispensable qu'un renouveau du culte et de l'étude de la Torah se produise. Pendant toute la période de l'exil, le peuple applique les mitzvot et étudie la Torah comme cela se faisait à l'époque du premier temple, dans le même esprit, avec les mêmes habitudes. Ils se sont installés dans des postures et des rites qui semblent être d'un autre temps, d'un temps révolu. À chaque période de notre histoire, il y a des guides, des grands tzadikim qui se lèvent pour tracer de nouvelles voies, de nouvelles habitudes, qui ont su insuffler une âme nouvelle dans l'application des mitzvot et de l'étude. Ce renouveau est souligné de manière explicite dans le verset suivant. La Yehudim Aïta Ora Vesimha Vesason Vikar. Le rayonnement de la joie aura est celui de l'étude. Il s'agit bien du renouveau de cette étude. Non seulement dans la manière d'étudier, d'analyser les textes, de questionner, d'innover de nouveaux commentaires inédits. Mais pas uniquement. La transformation de cette étude est radicale dans sa forme. Tous aspirent à la connaissance, à la compréhension, tous ont soif de savoir. De même, toutes les mitzvot, pour toutes les mitzvot, une transformation extraordinaire se produit dans l'application quotidienne des mitzvot, comme le tefillin, le respect des jours de fête, de Shabbat, etc. Il est dit plus loin que cette génération a accepté de bon gré la Torah orale. Cela signifie clairement que celle-ci va dès à présent prendre une nouvelle dimension jusque-là inconnue. Les rites du culte, comme les textes des prières quotidiens, les brachot, vont être institués par les membres de la Grande Assemblée. Et encore bien d'autres choses qui donneront un nouveau visage au culte et au rite de la synagogue. Cette transformation insufflera dans le peuple une nouvelle ferveur, un nouvel enthousiasme, une passion inédite dans l'acte de la mitzvah. C'est une lumière neuve qui apparaît en ce monde. Cette lumière influencera jusqu'aux voisins non-juifs qui adopteront les habitudes des juifs comme si que le monde s'était soudainement rempli de la connaissance. L'erreur que cette génération fit était de se tourner uniquement vers le passé, de continuer les us et coutumes d'antan, sans chercher à se projeter vers l'avenir. C'est cette torpeur qui a donné la force à Haman de s'attaquer à Israël. L'intelligence de Mordechai et d'Esther a été de déceler cette faiblesse et d'agir pour le bien du peuple en se projetant dans l'avenir. L'exemple type de cela... Et le jeûne de 3 jours qu'Esther institue à Suse, alors que c'est le jour de Pessah, ou l'ordre que Mordechai donne à Esther d'aller chez le roi, ou encore le fait que lui-même refuse de saluer Haman, alors que de par la stricte halakha, cela ne pose aucun problème. Imaginons un instant que cela se produise de nos jours. N'y aurait-il pas eu une levée de bouclier pour contester toutes ces décisions? Pour que la leçon de ces événements soit tirée et mise en application, il convient au maître des générations d'insuffler un esprit neuf, un rayonnement nouveau. Cela n'est possible qu'en te prenant de la hauteur, en se projetant vers l'avenir, qui ne peut être que le meilleur. Alors c'est ce qu'il est dit, l'ayodim, aïta, ora, vesimha, vika. Ce fut alors pour tous les juifs un rayonnement de lumière, celui de la Torah qui apparut lors de ces événements dans toute sa splendeur. Cette lumière illumina l'ensemble des juifs qui subitement se sentent transportés par un désir ardent de la connaissance de la Torah. Celle-ci, la Torah, le désir, agit sur eux comme un aimant. La joie, le contentement est celui des jours de fête. La sainteté du jour enveloppe l'homme qui se sent alors transporté dans une autre dimension. Cette joie correspond à l'âme supplémentaire dont nous sommes gratifiés les jours de Shabbat. C'est le temps du ravissement et de la délectation. L'allégresse et l'accomplissement de l'alliance par la Brit Mila. Là aussi, ils ressentirent la sainteté de cette grande mitzvah qui englobe les 613 commandements de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un renouveau dans toute l'application. On ne fait plus la mitzvah de Brit Mila comme on le faisait avant. La marque des honneurs est la mitzvah des tefillin. Cet objet de mitzvah, de par sa structure, contient les lumières, les énergies spirituelles qui, en se répandant en l'homme qui les porte, lui insufflent les forces spirituelles nouvelles, de sorte qu'il se sent lié, attaché, uni à Hachem de manière certaine. Lors de ces événements, l'ensemble des Juifs avait été dans la situation de celui qui fait un arrêt respiratoire. Il est conscient de ce qui lui arrive, il se sent partir. Et soudain, on lui place un masque à oxygène et sa respiration repart. Il revit. C'est cela qui arriva lors de l'histoire de Purim. Les Juifs ont vu leur respiration reprendre, leur vie repartir par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Ces 4 termes qui exprime la joie, le bonheur, la satisfaction, le contentement de ceux qui, face à une mort certaine, inéluctable, reviennent à la vie par l'action salvatrice d'un secouriste. Qui sont-ils ces secouristes? C'est Mordechai et Esther. Et tout le monde doit la vie à ces 2 secouristes. Ici, l'action héroïque des secouristes, de Mordechai et Esther, a dévoilé à l'ensemble des Juifs que la Torah et les mitzvot sont leur oxygène. Ils ont constaté de visu comment l'étude de la Torah agit sur leur destinée, comment le respect de Shabbat, comment le port des tefillin ou la Brit Mila ont un impact direct sur les événements. C'est d'ailleurs pour cette raison que Haman lui-même le comprend quand il rentre et il voit les enfants chercher Mordechai et il le voit en train d'enseigner à 22 000 enfants. Il dit, qu'est-ce que vous apprenez? Ils disent, on apprend Minhat HaOmer. Imaginez, immédiatement on comprend que l'étude de ce sujet, c'est ça, Haman le sait lui-même, que c'est le fait qu'il se soit adonné à ce thème de la mitzvah de Minhat HaOmer, qui correspond au jour même du 16 Nissan, qui a fait le renversement de situation. Et si Haman l'a constaté, l'a ressenti, alors pas plus forte raison l'ensemble des Juifs. Le renversement de situation inespéré, ils sont passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la déchéance aux honneurs, uniquement par la puissance des lumières qui ont jailli des mitzvot. Ce rayonnement était d'une telle puissance qu'il a aveuglé tous les ennemis d'Israël et les a éliminés. Mordechai sort du palais avec tous les honneurs, vêtu des plus beaux apparats, une couronne en or sur la tête. Chacun de ces ornements traduit la gloire de la mitzvah. C'est elle qui se répand dans la ville et qui emporte la population dans l'ivresse du bonheur et de l'exaltation. Les premières lettres des quatre mots, Ora, Simha, Sasson, Ikar, Vikar, donc c'est Aleph, Shin, Shin et Yud, ont valeur numérique 611. Torah, qui a valeur numérique 611. Il nous est nécessaire d'accomplir chaque jour deux mitzvot qui sont qualifiées de hôtes, de signes, d'alliances, comme la Mila et le Tfilin pendant la semaine. Et le Shabbat lui-même est un signe hôte. Donc on a le Shabbat, on ne met pas les Tfilin parce qu'on a deux signes. On a le Shabbat qui est hôte et la Mila qui est hôte. Ces deux signes sont les témoins de notre fidélité à l'alliance. Jamais trahis, jamais détruits. Nous sommes toujours fidèles à cette alliance. Chaque année à Purim, le dévoilement de ces lumières est reconduit. Il est à notre portée. Il nous appartient de revivre la réapparition de ce rayonnement tel qu'il s'est produit lors des événements. C'est le sens profond de la lecture de la Megillah et des mitzvot du jour de Purim. Ils ne sont que les outils mis à notre disposition pour que nous arrivions à jouir de ce rayonnement. Il est dit après, « Ubechol medina bina, ubechol aivair » dans chaque pays, dans chaque province, dans chaque ville, mais comme Asher Devarim Melav Beatomagia, là où les édits du roi parvenaient, Simha, Vesasson, Layodim, la joie et l'allégresse pour les Juifs, Mishté, ils ont fait des banquets, Veyom Tov, les jours de fête, Verabim et Amares, Mitzahadim, et beaucoup des gens, des Goyim, se empruntent et essayent de judaïser. Ici, il est précisé les provinces et les villes. Partout où l'édit du roi parvenait, Mordechai envoie ses lettres aux chefs des provinces et non pas à chacune des villes du royaume. Il se trouve donc de nombreuses villes, des villages où cette information ne parvient pas. Et malgré tout, les Juifs se rassemblent le jour dit pour combattre pour leur survie. Les ennemis étaient informés que ce jour ils devaient exterminer tous les Juifs, mais ils n'ont pas eu la force de s'opposer aux Juifs tant la crainte s'était emparée d'eux. Dans chacune des provinces du royaume, dès l'arrivée des messagers et la diffusion des nouvelles, de suite les Juifs font des fêtes et laissent éclater leur joie et leur bonheur. Le pays entier est pris d'allégresse. Elle se communique à toute la population. Des festins sont organisés pour remercier le Seigneur Tout-Puissant de sa bonté. Tout cela se fait sans concertation, mais de manière naturelle. Dans toutes les provinces de cet immense empire, les réactions sont identiques. Cela prouve bien que tous ont perçu la lumière du rayonnement nouveau qui se dévoile à eux. La population adopte les coutumes, les habitudes, les idées et les enseignements de la Torah. Eux aussi sont illuminés par le rayonnement de lumière. Ils sont saisis par la crainte du Tout-Puissant. Ils cherchent à se rapprocher de la vérité qui se révèle soudain à eux. Il est dit, tant la crainte que les Juifs ont s'est emparée d'eux. « Ki nafal paha dayu dimale » Cela ne signifie pas qu'ils ont eu peur que les Juifs leur fassent du mal. Ce n'est pas des Juifs qu'ils ont eu peur. Il faut comprendre ce verset comme suit. La crainte que les Juifs ont, quelle est la crainte que les Juifs ont? Celle du Tout-Puissant. Comme il est dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu tu craindras l'Éternel ton Dieu. Cette crainte leur est tombée dessus. En effet, le verset dit, Pahad Ayoudim, la crainte que les Juifs ont, et non pas la crainte des Juifs, parce qu'à ce moment-là, il aurait dit, Kinafal Pahad, mais à Yehudim Alehem. La différence est de taille. Cependant, ils ne s'en sont pas convertis, car les conversions à la Torah ne sont pas admises officiellement lors des événements exceptionnels. Comme la venue du Mashiach, ou l'époque de Mordechai, etc., l'époque de David et Shlomo. Mais, officiellement, il n'y a pas. Mais eux-mêmes se sont convertis, d'eux-mêmes. Ces conversions ont été nombreuses, mais d'ordre privé. Cet engouement pour la Torah et le judaïsme ressemble à celui qui s'est produit lors de la sortie d'Égypte. Un très grand nombre de judaïsants se sont joints aux enfants d'Israël. Le Erevrav, Moshe, ne les a pas repoussés et a accepté qu'ils suivent Israël dans le désert. Les événements, le jaillissement des lumières ont un impact certain sur l'ensemble des peuples. Le 13 du mois de Hadar, 4405, jour fixé par Aman pour l'extermination des Juifs, en ce jour, les enfants d'Israël détruisirent tous leurs ennemis. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.